Chapitre 12. Loin de se laisser irriter par l'opposition violente des scribes et des pharisiens, le Seigneur se sert de l'occasion pour enseigner calmement ses disciples en présence de la grande foule que la controverse avait rassemblée. Il venait de diriger le projecteur de la vérité sur les chefs religieux. Maintenant, il dirige la même lumière sur les disciples et sur leur chemin. En premier lieu, il les met en garde contre l'hypocrisie qu'il vient de dévoiler chez les pharisiens. C'est vraiment un levain, c'est-à-dire un mal d'une nature telle que s'il n'est pas jugé, il fermente et croît. Le but que poursuit l'hypocrite est d'avoir toute chose couverte, cachée à Dieu en premier lieu, puis au regard de ses semblables. Cependant, tout vient à la lumière, si bien qu'à la longue, l'hypocrisie se révèle vaine. Néanmoins, présentement, elle est absolument funeste à l'âme qui a affaire à Dieu de quelque façon que ce soit. Aussi, du point de vue moral, la mise en garde contre l'hypocrisie doit venir en premier lieu. Pour le disciple de Christ, rien ne doit être couvert aux yeux du Seigneur. En second lieu, il les met en garde contre la crainte de l'homme. Versets 4 à 11. Il ne leur cache pas qu'ils allaient affronter réjection et persécution. S'ils voulaient se garder de l'hypocrisie, au milieu d'un monde qui est sous l'empire de celle-ci dans une si large mesure, ils ne pouvaient pas s'attendre à connaître la popularité. Mais, d'autre part, s'ils voulaient ne rien avoir de caché aux yeux de Dieu, ils seraient capables de se tenir sans lâcheté en la présence des persécuteurs. Ceux qui craignent beaucoup Dieu craignent peu les hommes. Le Seigneur n'exhorte pas simplement ses disciples à n'avoir aucune crainte des hommes. Il leur fait aussi connaître des choses qui se révéleront très encourageantes pour bannir leurs craintes. Au verset 4, il s'adresse à eux en les appelant « mes amis ». Il savait qu'ils étaient ses disciples, ses serviteurs. Mais cela a dû placer les choses sous un jour nouveau, très réjouissant. Parce qu'ils sont ses amis, ils peuvent affronter l'inimitié du monde. Ce que nous pouvons aussi. Puis, au verset 6 et 7, il place devant eux d'une manière très touchante la sollicitude de Dieu à leur égard. Elle est si profonde qu'aucun cheveu de notre tête n'est oublié, mais ils sont tous comptés. Au verset 12, il les assure que dans leurs circonstances critiques, ils pourraient compter sur l'enseignement particulier du Saint-Esprit. Ils n'auraient nul besoin de préparer une défense minutieuse lorsqu'ils seraient traduits en justice devant les autorités. La haine et l'opposition des hommes allaient peser à leur charge. Mais quel merveilleux appui que l'amitié de Christ, la sollicitude de Dieu, l'enseignement du Saint-Esprit. Et en outre, s'ils confessaient Christ devant les hommes hostiles, le Fils de l'homme les confesserait devant les anges de Dieu, ce qui serait leur récompense. À ce point de son discours, le Seigneur est interrompu par quelqu'un qui désirait le voir intervenir en sa faveur dans une question d'argent. S'il avait été le réformateur social ou le socialiste que d'aucuns imaginent qu'il ait été, l'occasion se présentait ici pour lui d'établir les justes normes d'un partage d'héritage. Il n'en fait rien. Au lieu de cela, il dévoile la cupidité qui avait conduit l'homme à présenter sa requête, puis prononce la parabole bien connue du riche insensé. Reconstruire ses greniers afin de préserver tous les fruits que la munificence de Dieu lui avait accordés était de la simple prudence. Assembler tout cela pour lui-même et négliger toutes les richesses divines pour l'âme, c'est cela qui constituait sa folie. Le riche insensé était rempli d'avarice, puisqu'il considérait tous ses biens comme la garantie de l'accomplissement de son programme. « Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. » C'est précisément le programme de l'homme ordinaire du monde actuel. Loisirs en abondance, nourriture et boissons en abondance, plaisir et distraction en abondance. Or, le croyant est riche quant à Dieu, comme l'indique clairement le verset 32. Aussi, lorsque le Seigneur reprend son discours à ses disciples, au verset 22, il commence par les tranquilliser au sujet des soucis qui nous sont si naturels. Puisque nous sommes devenus riches, ayant reçu le royaume en partage, Nous ne devons pas être caractérisés par l'avarice, et nous ne devons pas nous charger d'aucun souci, puisque la sollicitude de Dieu à notre égard est pleinement suffisante. Le Seigneur dit : Votre Père sait. Verset 30. Ainsi, il enseigne à ses disciples à reconnaître en Dieu celui qui, avec un intérêt paternel, s'occupe d'eux comme aussi de leurs besoins pour la vie présente. Mais il agit ainsi afin que les disciples aient l'esprit libre pour poursuivre des choses qui actuellement se trouvent en dehors de cette vie. Il n'y a pas de contradiction entre les versets 31 et 32. Le royaume nous est donné, et pourtant nous devons le rechercher. Il nous faut le rechercher parce qu'il n'est pas encore manifesté. En conséquence, on ne le trouve pas dans les choses de cette vie, mais il se trouve dans les réalités spirituelles et morales liées à l'âme de ceux qui sont amenés sous l'autorité divine. Néanmoins, le royaume doit être une réalité manifestée dans ce monde, et ses titres de propriété sont déjà assurés aux enfants de Dieu. Ainsi, nous recherchons le royaume de Dieu, puisque nos pensées et nos vies aujourd'hui sont remplies des choses de Dieu et de son service. À cause de cela, la vie des disciples devait se vivre selon des principes diamétralement opposés à ceux des amis de ce monde. Au lieu d'amasser des biens et de mener une vie de facilité et de jouissance, le disciple doit être quelqu'un qui donne, qui amasse des trésors dans les cieux, quelqu'un dont les reins sont sains pour l'activité et le service, et dont le témoignage est une lampe qui brille. Bref, il doit être semblable à un homme qui attend le retour de son maître. Nous avons déjà remarqué les choses qui ne doivent pas nous caractériser. Ici, nous avons les choses qui doivent nous caractériser. En tant que serviteurs, nous devons attendre notre Seigneur, et non seulement attendre, mais veiller. Verset 37. Nous devons être prêts. Verset 40. Et nous devons faire. Verset 43. Faire la tâche qui nous est attribuée. L'heure de la récompense viendra au retour du Seigneur. Alors, le Seigneur lui-même se chargera de pourvoir à la pleine bénédiction de ceux qui auront veillé pour l'attendre. Ceci, que nous trouvons au verset 37, indique une récompense d'un ordre général. Le verset 44 parle d'une récompense plus spéciale qui sera donnée à ceux qu'un service fidèle et diligent dans les intérêts de leur maître aura caractérisé. Le discours du Seigneur à ses disciples se prolonge jusqu'à la fin du verset 53. Quelques points ressortent. Premièrement, le ciel est de nouveau présenté aux disciples. Au chapitre 10, comme nous l'avons remarqué, il leur apprend que leur bourgeoisie est dans les cieux. Maintenant, il leur enseigne à agir de telle sorte que leur trésor soit dans les cieux, et donc aussi leur cœur. Ils doivent vivre d'après les principes complètement opposés à ceux qui dirigent le riche insensé. Deuxièmement, le Seigneur sous-entend son rejet tout au long de son discours, et il en parle encore plus ouvertement à la fin, au verset 49 à 53. Le feu est le symbole de ceux qui sondent et qui jugent, et il avait déjà été allumé par son rejet. Par son baptême, il entend sa mort, et jusqu'à ce qu'il soit accompli, il était à l'étroit, c'est-à-dire retenu. Ce n'est que lorsque l'expiation aurait été accomplie que l'amour et la justice pourraient se répandre abondamment. Alors, enfin, le feu étant allumé et le baptême accompli, tout arriverait à un terme et la ligne de démarcation serait clairement établie. Lui deviendrait la pierre de touche, et il y aurait division même dans les cercles les plus intimes. Devançant en pensée tous ces événements, le Seigneur sous-entend son absence, et en conséquence parle de sa seconde venue en toute liberté. Troisièmement, à la question de Pierre, verset 41, le Seigneur ne donne pas de réponse directe. Il ne limite pas explicitement ses remarques au cercle restreint de ses disciples et n'élargit pas non plus le cercle afin d'englober les milliers d'Israël qui l'entouraient. Au lieu de cela, il insiste de tout le poids de ses paroles sur la responsabilité de ses auditeurs. Si quelqu'un se trouvait devant lui dans la position de serviteur, quel que soit le chemin qu'il y ait amené, il serait rétribué selon ses œuvres, qu'elle soit manifestée fidèle ou mauvaise. Le méchant serviteur ne souhaite pas la présence du Seigneur, et en conséquence, il retarde en pensée son retour. Sa relation avec le maître étant mauvaise, ses relations avec les autres serviteurs deviennent mauvaises, et mauvaise aussi sa vie personnelle. Lorsque le Seigneur viendra, sa part sera avec les infidèles, puisqu'il ne s'est montré être qu'un infidèle. Les versets 47 et 48 montrent clairement que la peine, aussi bien que la récompense, seront mesurées équitablement suivant le degré de responsabilité. Quatrièmement, le vrai serviteur se caractérise par son dévouement aux intérêts de son maître pendant son absence, et sa récompense, il l'attend jusqu'à ce qu'il soit de retour. Trois fois dans ce discours, le Seigneur parle de manger et de boire, image d'une vie agréable. L'homme du monde s'est réjoui pendant sa vie, verset 19, et celle-ci se termine par la mort. Le méchant serviteur a sa part de plaisir lorsqu'il se met à manger et à boire et à s'enivrer, verset 45, mais cela se termine par le châtiment à l'arrivée de son maître. L'homme du monde ne faisait pas que se réjouir, il était ivre, ce qui est pire. En réalité, lorsque des inconvertis professent être des serviteurs de Dieu, ils semblent tomber plus facilement qu'aucun autre sous l'influence enivrante de séduisants concepts religieux et philosophiques. Le serviteur fidèle attend son maître, qui le fera mettre à table et le servira pour sa joie. Verset 37. C'est alors que viendra pour lui son temps de bonheur. Au verset 54, le Seigneur, se tournant des disciples vers les foules, leur adresse des paroles d'avertissement. Elles étaient dans une situation des plus dangereuses et l'ignoraient. Elles savaient bien discerner le temps qu'il ferait, mais étaient incapables de discerner ce temps-ci. Parce qu'elles rejettent le Seigneur, elles le contraignent à devenir leur adversaire, c'est-à-dire la partie adverse dans un procès. Si elles persistaient dans cette attitude, et que leur affaire vint devant le juge de tous, elles se trouveraient entièrement coupables et la peine la plus forte les atteindrait. Elles auraient à payer jusqu'à la dernière pite.